Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Belinda Bosuma, à la présentation.
Jean-Pierre Bemba Gombo, acquitté dans l'affaire de subornation des témoins, mais condamné dans d'autres charges, notamment de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Bangui, jugement rendu aujourd'hui à La Haye. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, c'est aujourd'hui 8 mars. Occasion pour la police sénégalaise de la MONUSCO de voler au secours des femmes prisonnières à Goma et la chef de division provinciale du genre au Sud Kivu de privilégier la promotion de l'entrepreneuriat chez la femme. Et puis, l'invité de ce soir, Catherine Ilzer, chef de région Afrique de l'ONG Appel de Genève. Cette ONG vient de dialoguer avec 4 groupes armés actifs au Nord Kivu, à suivre en seconde partie de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le directeur de cabinet du Premier ministre a démissionné cet après-midi. Michel Somoué a déposé sa lettre de démission auprès du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila, assumant l'intérim du Premier ministre avec ampliation à la présidence de la République. Contacté par Radio Kapi, Michel Somoué s'est réservé de tout commentaire, rappelant que le lundi dernier dans la soirée, une altercation dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux a eu lieu à la primature entre le directeur de cabinet démissionnaire et le conseiller technique spécial, de surcroît gendre du Premier ministre Bruno Tshibala. Sa démission doit certainement être liée à cette affaire. Je vous le disais en titre, la chambre d'appel de la CPI a rejeté les appels interjetés par Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguenda, Fidel Babala et Narcisse Arido à l'encontre de leur condamnation dans l'affaire d'atteinte à l'administration de la justice. La juge présidente de cette instance, Sylvia Fernandez, a communiqué des décisions relatives à ces appels aujourd'hui au cours d'une audience. Patrick Tshibui, en charge de la communication au bureau de la CPI RDC, a rapporté ses décisions à la presse à Kinshasa. Un extrait de ses propos au micro de Honoré Missenga Kalala.
Aujourd'hui, la Chambre d'appel a rendu ce jugement sur le verdict et la peine dans l'affaire Jean-Pierre Bemba et les autres qui avaient été reconnus coupables conjointement avec lui des atteintes à l'administration de la justice. Et la Chambre d'appel a donc rejeté les appels qui avaient été interjetés par tous les 5 accusés à l'encontre de leur condamnation. Ça, c'est un élément qui ressort de ce jugement. Elle a donc confirmé les condamnations pour la plupart des accusations. Toutefois, la Chambre d'appel est donc acquittée M. Bemba, M. Kilolo et M. Mbangenda de l'accusation consistant à la production d'éléments de preuve faux en connaissance de cause, parce que la Chambre a estimé que cette infraction ne s'applique qu'à la présentation de preuves sous forme de documents et non à l'audition de témoins. Et en conséquence, étant donné que les autres accusations demeurent, c'est la raison pour laquelle la Chambre d'appel donc a confirmé les condamnations qui étaient prononcées contre eux.
Justice toujours, le tribunal militaire de garnison de Matadi a condamné hier près d'une dizaine des membres du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo à la peine de mort pour certains et à 10 ans de prison ferme pour d'autres. 15 personnes ont été acquittées. Cela fait suite aux échauffourées qui ont opposé en janvier et février 2017 la police nationale aux adeptes de ce mouvement. Les avocats de la défense parlent d'une décision politique. Explication, Guy Roger Nyampala.
5 prévenus, dont 2 femmes, ont été condamnés par les tribunaux militaires de garnison de Matadi à la peine de mort sans aucune possibilité de bénéficier des mesures de grâce ou d'amnistie avant 5 ans. 11 autres prévenus ont été condamnés à la peine de 10 ans de servitude pénale principale sans aucune possibilité également de grâce ou d'amnistie avant 5 ans. Le tribunal militaire de garnison de Matadi a acquitté 15 prévenus, dont 3 femmes. C'est dans l'affaire auditeur militaire de garnison de Matadi contre 31 prévenus, membres présumés du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo ou du parti politique Bundu Dia Mayala. Ce verdict est rendu après 2 mois d'instruction marquée par plusieurs remises contradictoires. Ces gens étaient poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel et meurtre. C'était lors des échauffourées entre les éléments de la police et les adeptes de ce mouvement dans la cité de Kimpese à Songololo et à Matadi au début de l'année 2017. Les avocats de la défense ont qualifié ces jugements de décisions politiques. C'est jeudi, les avocats de la défense affirment l'un d'eux vont interjeter appel contre ces jugements devant la cour militaire pour mal juger. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Kapi.
célébration aujourd'hui 8 mars de la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, plusieurs manifestations ont été organisées dans la capitale Kinshasa et à l'intérieur du pays. À Goma, dans le Nord Kivu, c'est l'occasion pour l'unité de la police sénégalaise au sein de la MONUSCO de voler au secours des femmes prisonnières. Elle a fait hier un don à médicaments à la clinique médicale du pavillon des femmes à la prison centrale Mounzenze à Goma. En plus de ce don, les médecins de cette unité ont consulté et soigné des dizaines de femmes détenues avec leurs enfants. Rosalie Zawadi pour le reportage.
Après plusieurs semaines sans consultation et sans soins du fait du manque de médicaments, les femmes détenues ont été soulagées de rencontrer les médecins du contingent sénégalais qui ne sont pas venus la main vide. Après les consultations, ils ont donné des médicaments aux femmes et à leurs enfants, tout comme des kits hygiéniques en grand nombre. Satisfaction du docteur Ange-Rose Valinandi, médecin permanent à la clinique du pavillon femmes au sein de cette prison.
Le contingent sénégalais est arrivé pour nous accompagner par rapport aux soins des femmes. Ils ont amené un kit nécessaire pour soigner ces femmes-là par rapport aux maladies gynécologiques, donc les infections urogénitales, les infections respiratoires pour les nourrissons, même elles-mêmes aussi, et les diarrhées. Et aussi, il y a quand même un cas d'une femme avec un cancer de sein. Hein. Bon, nous apprécions vraiment, surtout que, bon, déjà nous sommes devant un problème de médicaments. Donc, par rapport à cette carence, ça veut dire que les consultations étaient déjà assez espacées. Donc, ça, c'est vraiment un soulagement. Donc, vont bien passer la journée de la femme.
Le major Pouille Sek, commandant de l'unité de police sénégalaise au sein de la MONUSCO, s'est dit touché par la situation des femmes détenues et a promis que cette assistance de son unité ne sera pas la dernière. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Okapi.
Dans le même cadre, au Sud Kivu, les femmes changent leur manière de commémorer cette journée, jadis consacrée au défilé, au port des pannes et à la réjouissance. La chef des divisions provinciales du genre, de l'enfant et de la famille privilégie plutôt la promotion de l'esprit entrepreneurial chez la femme du Sud Kivu, raison pour laquelle elle fait participer plusieurs femmes rurales venues de 8 territoires de la province à la foire économique de 3 jours ouverte ce jeudi à Bukavu. Ces femmes rurales exposent divers produits vivriers aux côtés des œuvres réalisées par leurs homologues de la ville dans des stands ouverts au terrain de l'ISP Bukavu à l'occasion de cette journée dédiée à la femme. Écoutez à ce sujet la chef de division provinciale du genre de l'enfant et de la famille, Mamie Massimane, au micro de Jean Kassami.
Pour nous, nous sommes passés de l'autre cas. Il n'y a pas d'épargne. C'est la journée de la valorisation de la force productrice de la femme. Les femmes du Sud Kivu, nous avons tant souffert des atrocités, des viols, des guerres. On a marché, on a pleuré, mais ce n'est plus le cas. Nous sommes maintenant dans la valorisation de la force productrice de la femme. Nous allons faire une foire économique pour que nous puissions montrer là où nous en sommes avec notre force productrice. La foire économique que nous organisons, d'abord, c'est pour contribuer à la promotion des activités économiques des femmes du Sud Kivu. Les femmes vont venir des territoires avec leur production. Elles vont exposer. Il y a les femmes entrepreneurs qui font la restauration, qui vont acheter, qui vont transformer. Et nous, les femmes, quand nous allons venir pour célébrer le 8 mars, nous allons acheter les vivres et les non-vivres produits des mains des femmes. Mais aussi pour la restauration, il n'y aura pas de va-et-vient dans des cabarets. Nous allons consommer là localement pour soutenir la force de la femme.
Toujours en rapport avec cette journée, notez qu'ici à Kinshasa, la capitale, des robots régulateurs de la circulation routière sur certaines artères de la capitale ont été revêtus d'épagne. Je vous rappelle que c'est une femme qui a conçu ces robots en la personne de Madame Kirongozi. Retour au Nord Kivu. Des centaines de ménages de déplacés vivent depuis plusieurs mois sans assistance humanitaire dans le groupement de Baswaga Madiwe en territoire de Beni. Selon le président du point focal de ces déplacés dans cette région, la majorité d'entre eux vivant dans des familles d'accueil ont fui l'insécurité dans certaines localités des territoires de Beni et Lubero, mais également dans la province de l'Ituri. Kaki Limonga Alphonse appelle le gouvernement à leur venir en aide. On l'écoute au micro de Martial Papi Mukeba.
À Mabalako, il y a 680 ménages sans assistance humanitaire. À Visiki Mambombo, il y a également 330 ménages sans assistance. En Ngazi, il y a 430 ménages sans assistance. Dans la localité de Pendekali, il y a 380 ménages sans assistance humanitaire. À Kantine Centre, il y a aussi 718 ménages qui y vivent sans assistance humanitaire. Et à Kibabasi, il y a 377 ménages sans assistance humanitaire. Ces déplacés proviennent des Lubéros, Beni et Lituri, et ces des Lubéros fuient l'activisme des Maïmaï, Mazembe et Nyatura. Les déplacés qui viennent des Lituri fuient les exactions des Maïmaï Simba, dirigés par un certain Manu, l'agent des Morgan. Nous lançons un appel au gouvernement pour l'assistance à ces déplacés, car leurs familles d'accueil ont des difficultés pour leur prise en charge.
Dans l'actualité, notez aussi qu'en Ituri, une pirogue transportant plus de 10 Congolais et qui se rendait en Ouganda a chaviré aujourd'hui dans l'avant-midi à moins d'un kilomètre de la berge de Kasseni sur le lac Albert. Des sources locales parlent de 7 enfants portés disparus et d'une dizaine de rescapés. Ce bilan est confirmé par Wilson Ndourou, officier de pêche du territoire d'Irumu. Il indique que la surcharge serait à la base de ce naufrage. Et puisque nous parlons de l'Ituri, notez que la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, FRDC demande aux autorités congolaises de mettre fin à la tragédie de Djougou pour que les présumés auteurs des recrutements des enfants dans les rangs des assaillants répondent de leurs actes. Gianfranco Rotigliano l'a déclaré ce jeudi à Bunia à la fin de sa mission d'évaluation de la situation des enfants et des femmes déplacés de Djougou. Il annonce aussi que l'UNICEF va continuer à apporter son appui nutritionnel à près de 33 000 enfants hébergés au site des déplacés de Djougou à l'hôpital général de Bunia. Il l'a dit à Delvin Waïssa.
Pour le moment, nous avons l'information qu'il y a eu des recrutements d'enfants. On ne les a pas encore vus, mais je l'ai dit, le gouvernement de la RDC ne fait plus de recrutement, donc ils sont parfaitement alignés avec nous. Mais quand il y a des groupes armés, comment on les contrôle? Il faudra qu'une fois que cela a été résolu, on prend ceux qui sont responsables et on fait un processus de justice correct. Les enfants, comme toujours, sont là. Ils ont besoin de nourriture, d'être encadrés, d'être pris en charge. Et c'est ce que nous allons faire. Ces enfants viennent d'arriver. On ne peut pas placer quelques milliers d'enfants dans des écoles en trois jours. Il faut discuter d'abord avec les autorités de l'État pour qu'ils organisent une prise en charge aussi. Ce n'est pas que nous. Quand les enfants étaient ici à Bougna pour des mois et des mois, on avait fait des écoles, mais on ne va pas faire les écoles après une semaine.
Et puis cette tension à la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa depuis le vendredi 2 mars dernier. Des étudiants ont séquestré les professeurs de cette faculté. C'est ce qu'a indiqué le doyen de la faculté, le professeur Kazadi Mabika, aujourd'hui à Radio Kapi. Selon lui, il s'agit des étudiants mécontents ayant échoué aux examens de fin d'année. Paul Matendo nous en dit plus.
Selon les délégués facultaires, les étudiants ont décidé d'observer un sit-in devant les bâtiments universitaires. Jonas Moutebois précise que ces étudiants sont frustrés par les comportements qu'ils qualifient d'injustes de certains enseignants. Il ajoute que beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas les codes qui leur sont attribués. Jonas Moutebois.
Certains contestent le code. Il y a d'autres cours où un étudiant qui fait la seconde session, il a zéro à l'examen, allais-je dire. C'est quand même un peu frustrant. Et puis il y a des cours où, à la première session, la meilleure cote était 3. À la seconde session, la meilleure cote c'est 2.
Faux, rétorque le doyen de la faculté. Selon le professeur Kazadu, il s'agit là des étudiants qui ne se sont pas bien appliqués. Il reconnaît que tous reçoivent les corrigés de leurs épreuves. Pour sa part, l'association congolaise des ingénieurs civils, ASIC, constituée des anciens de cette faculté, appelle les étudiants à l'apaisement. Charles Ilunga, président de l'ASIC.
Il faut être très organisé. On ne réussit pas au hasard à la faculté polytechnique, donc l'ASIC lance un appel à ce que les étudiants abandonnent le chemin de la violence. Les étudiants s'organisent et fassent valoir les droits. Et nous les encourageons sur le chemin du droit.
Pour l'instant, les doyens de la faculté rassure que le calme est revenu. Le dossier est pris en charge par le ministre des tutelles, termine-t-il.
Taxe et royalties sur les minerais congolais. Le chef de l'État convainc les opérateurs miniers du cuivre, cobalt et or à attendre la promulgation de la loi minière incessamment. Au terme de 8 heures de discussion hier au Palais de la Nation ici à Kinshasa avec Joseph Kabila, le ministre congolais des Mines a rendu le compte. Le code minier sera promulgué et appliqué tel quel, a-t-il dit, mais de préciser également que l'application de ce code devra être accompagnée d'un règlement minier après au moins 30 jours d'examen et traitement des préoccupations des miniers par une commission d'experts au cas par cas. Reportage de Jeff Ngoy.
Les interlocuteurs du chef de l'État ont soulevé des inquiétudes susceptibles d'affecter leurs opérations sur le terrain. Ces inquiétudes se rapportent notamment à la hausse de la redevance minière de 2 à 8%, la réduction de certains avantages douaniers et la suppression de la clause de stabilité des 10 ans. C'est-à-dire pour ces opérateurs, le nouveau code minier peut être révisé à tout moment. Que va-t-on faire alors des royalties? Le ministre des Mines, Martin Kabouiloulou.
Que fera-t-on de la fiscalité? Ça, nous attendons que le président de la République République promulgue le code. Après la promulgation du code, nous allons attendre que les minières par filière, au cas par cas, vont nous envoyer leurs préoccupations.
Adopté au Parlement depuis janvier et transmis au chef de l'État pour promulgation le 27 du même mois, le nouveau code minier offre un marché gagnant-gagnant entre les opérateurs miniers et la RDC. Mais à quand sa promulgation?
Le code sera d'application après le règlement minier. 30 jours après, il n'y a plus de manœuvre pour le président de la République. La loi doit être promulguée telle qu'elle est.
Selon le ministre, Joseph Kabila a fait savoir aux miniers qu'ils sont des opérateurs économiques de la RDC et que leurs préoccupations sont prises en compte dans un dialogue constructif après la promulgation de la nouvelle loi minière. Et ses partenaires, Adi Kabouéloulou, étaient de bonnes humeurs.
Actualité Afrique Monde.
Commençons au Burkina Faso. Les 8 militaires des forces armées burkinabées tués dans les attaques terroristes de Ouagadougou du 2 mars dernier ont été inhumés au cimetière militaire de Gungouin ce mercredi. Ils ont tous été décorés à titre posthume. Les autorités politiques, religieuses, les familles et amis sont venus rendre un dernier hommage à ces militaires. En dehors de l'Afrique, des démissions en cascade à la Maison Blanche. Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, a démissionné. Il n'a pas réussi à convaincre le président américain de revenir sur sa décision de taxer les importations américaines d'acier et d'aluminium qui fait débat au sein même des républicains. De fait, depuis l'arrivée de Donald Trump à la tête du pays, la liste des responsables qui ont démissionné ont été contraints de partir ou ont tout simplement été mis à la porte de la Maison Blanche commence à être longue. Et parlant de Donald Trump, notez qu'à Los Angeles, une actrice porno porte plainte contre le président des États-Unis et selon le dossier de justice, celle qui s'est fait appeler Stormy Daniels cherche à faire invalider une clause de confidentialité qu'elle a signée avec Donald Trump, lui interdisant d'évoquer leur relation sexuelle présumée. La plainte déposée devant un tribunal à Los Angeles par l'actrice confirme cette relation démentie par le président.